aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un incendie qui a ému le monde entier, celui de Notre-Dame de Paris. Le 15 avril 2019, vers 19h, des milliers de Parisiens et de touristes aperçoivent de la fumée qui s'échappe de la cathédrale. En quelques minutes, des flammes apparaissent et l'édifice est confronté à un incendie digne du Moyen-Âge. Les pompiers s'engagent alors dans un combat avec le dragon, le surnom qu'ils donnent au feu. Mais ce dragon, alimenté par la gigantesque toiture en chêne, semble prêt à dévorer sa proie. Heure après heure, les pompiers se retrouvent face à un dilemme. Faut-il sauver la cathédrale, quoi qu'il en coûte, y compris en mettant la vie des leurs en danger? Face à ce drame, qui se joue en direct devant les télévisions du monde entier, les téléspectateurs retiennent leur souffle. Car au-delà du symbole religieux, Notre-Dame, c'est l'édifice popularisé par le roman de Victor Hugo et les nombreux films et comédies musicales qui ont suivi, en un mot commençant, et comme Hugo, universel. C'est notre drame de Paris sur lequel plane un doute et subsiste une question. Comment l'édifice a-t-il pu s'embraser si vite, malgré les dispositifs de sécurité incendie? Notre invité aujourd'hui, Laurent Valdiguier, journaliste et auteur du livre intitulé « Notre-Dame, le brasier des vanités », publié l'an dernier chez Impact Éditions. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, récit documentaire Adrien Morat, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Laigle.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
« 15 avril 2019, 18h, Maison de la Radio, 16e arrondissement de Paris. En cette fin de belle et agréable journée de printemps, certains mots ornent la une de la presse. Gilets jaunes, grand débat, allocution, Emmanuel Macron. Et ce sont d'ailleurs les titres de la session d'info de France Inter tous les jours à cette heure-là, le 18-20 de Fabienne Sintès. »
France Inter, le 18-20.
Cette fois, ça y est. Alors, c'est la fin d'une séquence. Le grand débat a été lancé sur la crise des gilets jaunes, comme on lance un canadair sur des feux de forêt dans un été de canicule. Sauf que maintenant, il faut des réponses et elles arrivent donc maintenant. Emmanuel Macron a promis du concret, des annonces fortes. C'est ce qu'on dit dans le jargon politique.
Et à quelques kilomètres de la maison de la radio, sur l'île de la Cité, les ouvriers de la société Le Bas sont descendus de l'immense échafaudage qui entoure la flèche de Notre-Dame de Paris, qui culmine, rappelons-le, à 93 mètres de hauteur. 4 jours plus tôt, sur ce chantier de rénovation, c'était en effet l'enlèvement des 16 statues qui trônent sur la façade de Notre-Dame, ce qui n'a pas échappé au JT de France 2 du 11 avril.
Un balai de statues dans le ciel de Paris. Toute la journée, 16 sculptures représentant les 12 apôtres et 4 évangélistes se sont envolées du toit de Notre-Dame. Pour cette opération, un échafaudage géant encercle la flèche de la cathédrale. Les têtes des statues ont été dessoudées pour accrocher le câble de la grue à leur armature intérieure. Mais pourquoi déplacer ces sculptures ?
Parce que elles empêchent l'accès et donc la restauration de la flèche de la cathédrale Notre-Dame. Et puis ensuite parce qu'elles sont elles-mêmes à restaurer, ce sont des statues en cuivre qui n'ont pas été déposées depuis 160 ans.
Construite pendant près de 200 ans à partir de 1163, la cathédrale a été délaissée au fil des siècles. Mais en 1831, un homme va faire changer le regard des Français sur cet édifice. Il est l'un des plus grands écrivains de l'histoire mondiale de la littérature, Victor Hugo bien sûr. Il n'a que 29 ans lorsqu'il publie Notre-Dame de Paris. Le succès de roman marque le début d'un nouvel intérêt pour la vieille cathédrale que les Parisiens, disons-le, ne regardaient plus. 2 décennies plus tard, un grand chantier de rénovation est lancé sous la direction de l'architecte Viollet-le-Duc, qui ajoute les emblématiques gargouilles qui font peur aux enfants et la célèbre flèche qui impressionne tout le monde. Depuis cette grande rénovation, la cathédrale est régulièrement restaurée, tant il y a à faire pour la préserver. En pleine Seconde Guerre mondiale et sous l'occupation allemande, une nouvelle rénovation débute pour ce monument qui a survécu à toutes les guerres. Les actualités mondiales évoquent le chantier en août 1941.
Notre-Dame, cœur de Paris, est aujourd'hui l'objet de soins attentifs. Une équipe d'ouvriers d'art est venue réparer l'outrage que les ans ont apporté à ce joyau de pierre, témoin de 10 siècles de grandeur française. Paris. Paris, quelles que soient les circonstances, veille jalousement sur ces chefs-d'œuvre qui font de notre vieille cité une des plus belles, sinon la plus belle ville du monde.
Près de 80 ans plus tard, en ce mois d'avril 2019, c'est le début d'un nouveau programme de restauration prévu, celui-là, pour durer 10 ans. Mais ces travaux n'empêchent pas les offices de se dérouler normalement.
Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse...
Ce lundi 15 avril 2019 marque le début de la semaine la plus importante pour les catholiques, c'est la semaine sainte qui précède Pâques. Ce soir-là, on retrouve près de 800 fidèles venus assister aux vêpres, le dernier office de la journée. Dans le presbytère, situé juste à côté de la cathédrale, un employé de la société Elliptis surveille constamment un tableau avec 160 voyants correspondant à 160 capteurs incendie. C'est le PC Sécurité de Notre-Dame. Ce jour-là, l'employé, qui n'est affecté ici que depuis 3 jours, doit assurer un double service. Son collègue, qui devait prendre sa relève, a un empêchement. Vu que le tableau n'émet pas d'alarme sonore, l'employé doit constamment rester devant, pas une seconde, pour se faire à manger ou aller aux toilettes. Et rappelons qu'il fait 2 services d'affilée ce jour-là. Vers 18h15, tout de même, il descend au sous-sol pour aller chercher de quoi se restaurer. Manque de chance, et c'est souvent le cas dans les catastrophes, l'alarme lumineuse se met à clignoter à 18h18. L'employé de la sécurité incendie remonte à 18h20 dans le local. Et là, surprise et panique, un voyant clignote. Il joint par talkie-walkie l'un des responsables de la sécurité qui est à l'intérieur, lui, de la cathédrale. En cas d'alarme, c'est cet homme qui doit lever le doute au plus vite, car il y a souvent de fausses alertes. L'employé lui transmet une indication beaucoup trop vague. Il ne sait pas précisément à quoi correspond le voyant. Il donne seulement la catégorie correspondant à plusieurs voyants. Incendie, comble, nef, sacristie. Mais ces deux parties du bâtiment sont situées très loin, l'un de l'autre, l'une de l'autre. L'ancien gendarme à la retraite se dirige alors vers la sacristie. Il n'y a aucun départ de feu. Il appelle l'agent d'Elitis et le rassure. Fausse alerte. Oui, le problème c'est que le voyant clignote toujours. Pendant ce temps, la messe se poursuit dans la cathédrale. Au bout de 5 minutes, l'alarme se met à résonner dans l'édifice. Des messages enregistrés en français et en anglais demandent l'évacuation du bâtiment. Il est 18h23. Tout le monde est évacué dans le calme. L'organiste Johan Vexo raconte ce moment dans le reportage BFM Grand Format.
Donc on a quitté nous-mêmes le chœur, mais tranquillement, sans savoir réellement ce qui se passait. J'ai pris le temps d'éteindre l'orgue, de prendre mes affaires et de sortir. Et pour être honnête, sur le moment, à aucun moment j'ai pensé que ça pouvait être un feu.
Dans le presbytère, l'employé de la société de sécurité Elitis est en panique, car le voyant ne s'éteint pas. Lui, qui n'a été formé que 2 demi-journées, n'arrive pas à déchiffrer le code ZA110-31-51 qui accompagne le signal d'alarme. L'un des agents de la cathédrale lui dit alors par talkie-walkie, appelle ton chef pour savoir où cela se situe si tu n'arrives pas à comprendre le message. 18h28, l'employé appelle son responsable qui se met à chercher dans un gros manuel à quoi correspond cette indication. 18h43, son responsable n'a plus de doute. Ce sont bien les combles de la nef qui sont en feu. Il y a urgence. Il appelle directement Jean-Paul, le gendarme à la retraite, pour gagner du temps. Lui et un autre employé se mettent alors à grimper les 387 marches pour localiser le départ du feu. Il leur faut 6 à 8 minutes pour atteindre les combles de la nef et la fameuse forêt dont la charpente est composée d'un millier de chênes qui datent du Moyen-Âge. Une fois arrivés sur place, ils ouvrent une première porte... Puis une seconde. Et là, c'est le choc. Ils font face à des flammes de plusieurs mètres. Impossible d'utiliser les extincteurs. Jean-Paul hurle alors dans son talkie-walkie, il y a le feu, appelle les pompiers. À 18h51, la sirène retentit dans la caserne des pompiers de la rue du Cardinal Lemoine, la plus proche de Notre-Dame. Autour de la cathédrale, les policiers mettent en place un périmètre de sécurité pour protéger tout le monde et surtout faciliter l'intervention des pompiers.
S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît,
Il est 18h57, les premiers pompiers arrivent sur place. Il faut vite se mettre en action. L'adjudant-chef Jérôme Demey, le plus gradé, est le premier à arriver sur place. C'est donc lui qui prend les premières décisions. Il les explique dans le reportage grand format BFM.
Donc à ce moment-là, très rapidement, je demande des moyens supplémentaires, donc avec une demande de renfort conséquent d'engin. Et ensuite, je commence à mettre mon dispositif en place. On sait que c'est une intervention qui va être particulière, dangereuse aussi, et surtout dramatique après pour l'histoire. Maintenant, on était préparés. Moi, mes hommes connaissaient les lieux, je connaissais les lieux par cœur.
18h58, près de 40 minutes après l'activation des voyants lumineux, la première équipe de pompiers s'engage dans les escaliers de la cathédrale, grimpant les marches deux à deux avec 30 kilos de matériel sur le dos dans un escalier étroit. Et c'est bien sûr une course contre la montre qui s'engage. Dans toutes les rédactions, les journalistes comprennent très vite la gravité de l'incendie.
France Inter, le téléphone sonne.
Une information qui est d'importance quand même, parce que nous on a les images ici, parce qu'on voit sur les télévisions un incendie spectaculaire, extrêmement spectaculaire à Notre-Dame. Et Cyril, à l'instant, là, donc un message du président de la République.
Une information de l'Élysée sur les boucles que nous détenons, journalistes. En raison du terrible incendie qui ravage Notre-Dame, le président de la République a décidé de reporter son allocution de ce soir, qui était prévue à 20h.
Au QG central des pompiers, dans le 17e arrondissement de Paris, le général Jean-Claude Gallet se met en route pour prendre le commandement des opérations. Sa voiture, banalisée, file à toute vitesse pour traverser Paris. Dans la caserne de Versailles, à 23 km de l'île de la Cité, l'un des pompiers, anciennement en poste à Paris, pense directement à un aspect technique. Aucune caserne parisienne ne dispose de BEA, bras élévateurs aériens. Et vu la hauteur à laquelle le feu s'est déclenché, il propose à ses homologues parisiens de mettre en route ces deux camions qui permettent d'aller, eux, à une hauteur de 46 mètres. Une aide salutaire. Pendant ce temps, les premiers pompiers engagés sont parvenus au sommet de l'escalier de la cathédrale. Ils branchent leurs lances sur les colonnes sèches et commencent à asperger le brasier. Le pompier Guillaume Grillet explique la difficulté de combattre un feu de charpente.
La structure d'une charpente, c'est le pire, parce qu'en gros, c'est du bois massif et qui va être bien ventilé. Donc le feu a toute latitude de se développer de manière... C'est un petit peu le principe du barbecue. Et puis le principe d'une toiture, c'est de protéger de l'eau. Donc tant que la toiture n'est pas atteinte, si on crache dessus, l'eau va ruisseler. Donc tant que le feu n'arrive pas, on peut pas mouiller par anticipation la structure.
Sur l'île de la Cité, la vie s'est arrêtée et tous les regards sont tournés vers le drame qui se joue sur la toiture de Notre-Dame. Des camions de pompiers venus de tout Paris arrivent sur place. Une pluie de brandons, des morceaux de charbon de bois s'abat autour de la cathédrale. L'odeur du feu envahit l'atmosphère et les sirènes ne cessent de résonner dans la ville. Sur la terrasse du transept nord, à 60 mètres de hauteur, les 5 premiers pompiers arrivés en premier sur le site arrosent le brasier avec des lances. Sans grand succès, il faut donc s'approcher un peu plus encore. Le chef désigne alors les pompiers et pompières, Jérémy et Marie-Ange, pour une mission de reconnaissance très délicate. Il s'agit de franchir la porte qui donne sur les combles et la forêt de charpente et trouver un accès plus direct jusqu'au cœur du brasier. Mais dès qu'ils accèdent aux combles, ils sont désorientés. La fumée est chaude, noire, opaque. Ils n'y voient plus rien. Ils doivent se guider à l'ouïe et au toucher. Le bruit du feu et les poutres en bois sont leurs repères. Accroupi, il trouve un escalier et commence à grimper. Le chef, Jérémy, se retourne régulièrement vers Marie-Ange pour lui demander si tout va bien. Elle a 24 ans, elle sort tout juste du centre de formation et c'est sa première intervention incendie, donnant à l'expression baptême du feu tout son sens. Elle a très chaud, trop chaud, Marie-Ange. Mais elle ment, elle dit que tout va bien, parce qu'elle ne veut pas faire échouer la mission. Mais au bout d'une dizaine de marches, son chef se retourne et lui dit non. Il fait trop chaud, il faut le ressortir, vite. Une fois de retour à l'extérieur, ils voient mutuellement que leurs casques ont changé de couleur, s'ils qui ne sont allés au maximum de la résistance de leur matériel. Impossible d'attaquer le brasier de l'intérieur, donc. Alors les pompiers se placent autour de la toiture, sur les transepts nord et sud. Et une autre équipe monte dans les tours. Parmi cette équipe, le lieutenant Clément Lamouille, il raconte dans l'émission Envoyé spécial.
sur le parvis, il y a deux tours. Je m'engage dans une de ces tours en premier. Il y a près de 50 mètres à monter en courant avec le matériel qui est très lourd. Une fois les portes enfoncées, nous avons un visuel sur la charpente de l'église, totalement embrasée et des flammes d'une dizaine de mètres de haut.
Finalement, vous arrivez sur un feu particulier, c'est un énorme brasier, mais il n'y a pas de vie à sauver.
Il n'y a effectivement pas de vie à sauver, mais on se rend compte qu'il faut sauver la culture et le patrimoine français, l'histoire de France.
Sur le parvis, les généraux Jean-Marie Gontier et Jean-Claude Gallet, qui dirigent les opérations, tentent d'élaborer un plan de bataille contre ce feu qui semble incontrôlable. Mais dans leur esprit, il n'est pas question de perdre un seul homme ce soir. Quelques semaines auparavant, deux pompiers sont morts dans une intervention rue Trévise dans le 9e arrondissement de Paris, après une explosion au gaz. Ça suffit. Aujourd'hui, les entrailles de Notre-Dame réunissent toutes les difficultés. Elles nécessitent une intervention à plus de 40 mètres de hauteur, des escaliers étroits, un feu de charpente puissant. Théoriquement, grâce à l'architecture gothique de la cathédrale, la charpente étant isolée du reste du bâtiment par la voûte, l'intérieur ne risque pas d'être touché. Sauf si... Sur le parvis, le général Jean-Claude Gallet lance alors en Nunaise, secrétaire d'État à l'intérieur. Vous savez, la flèche, je pense qu'elle tombe d'ici une demi-heure. Oui, car c'est la grande menace qui pèse sur les pompiers. À l'intérieur de la cathédrale, deux d'entre eux ont reçu la mission d'éteindre les nombreux départs de feu causés par la chute de Brandon et de plomb en fusion. Et sur les quais de Seine, des milliers de Parisiens et de touristes qui ont été repoussés de l'île de la Cité restent figés à regarder le triste spectacle qui s'offre à eux. De nombreuses personnes filment cet événement, qui est désormais retransmis dans le monde entier, sur tous les réseaux sociaux. Quand tout à coup, un murmure parcourt la foule.
Là, il commence à faire très très chaud. On devait reculer à chaque fois le point d'attaque. Et les flammes se rapprochaient de plus en plus. Et voilà, à un moment, on a entendu un très gros bruit.
Le haut de la flèche vient de s'écrouler. Et quelques instants plus tard... Ce que redoutaient le plus les pompiers arrive. La totalité de la flèche de Viollet-le-Duc s'écroule et emporte avec elle une partie de la voûte. Le bruit est assourdissant. 750 tonnes de poutre de plomb s'abattent de 93 mètres de haut. La flèche transperce le cœur de Notre-Dame. Il est 19h57. À 20h, Anne-Sophie Lapix ouvre le JT de 20h.
Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le 20h de France 2 qui devait être une édition spéciale consacrée à l'intervention du président de la République. Mais on a appris il y a une vingtaine de minutes qu'Emmanuel Macron reportait son intervention pour se rendre devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, car un gigantesque incendie vient en effet d'éclater en fin d'après-midi. Les images sont extrêmement impressionnantes. Le toit est en feu et la flèche vient de s'effondrer.
Sur le parvis de la cathédrale, les pompiers s'inquiètent pour deux des leurs qui sont à l'intérieur. Sont-ils sous les décombres ? Au QG des opérations, l'ordre est donné, il faut évacuer tout le bâtiment parce que Notre-Dame peut s'effondrer à tout moment. Mais certains pompiers se retrouvent bloqués par des portes impossibles à ouvrir. Sans hache à leur disposition, ils appellent leurs collègues à l'aide. Le général Gallet craint alors le pire.
Keeps me warm, steady warm. help me understand.
Inter, affaires sensibles.
Il est 20h, la flèche de Notre-Dame de Paris vient de s'écrouler sur la nef et des millions de téléspectateurs ont les yeux rivés sur ce drame qui se joue en direct. Pour les pompiers, la priorité est à l'évacuation de leurs coéquipiers encore dans le bâtiment. Mais finalement, ils sont vivants. On a frôlé le drame. L'adjudant-chef Jérôme Demey explique comment s'est organisée l'évacuation deux jours plus tard dans l'émission C'est à vous.
À partir du moment où la flèche donc est tombée, donc à traverser la cathédrale et est tombée au niveau de la nef, il y avait clairement un risque d'effondrement. Dans ce sens, tous les personnels qui étaient engagés par les communications existantes ont été repliés. Et c'est donc les bras élévateurs aériens qui ont pris le relais. À ce moment-là, donc, on avait vraiment des risques donc, d'effondrement de la structure. Il y avait des pierres qui tombaient sur la voie publique. Ce n'était pas forcément évident. Suite à la chute de la flèche, donc il y a eu un incendie aussi qui s'est déclenché donc au rez-de-chaussée, vu qu'elle était tombée au rez-de-chaussée de la cathédrale. Donc il a fallu recoordonner les moyens, mettre des lances au niveau du rez-de-chaussée, évacuer donc nos personnels qui étaient dans les différentes tours, pour ensuite continuer l'intervention.
Les priorités sont désormais la sécurité des pompiers, la sauvegarde des deux beffrois en bois à l'intérieur de deux tours et l'évacuation des reliques de la cathédrale. Oui, les reliques, et pas n'importe lesquelles. La couronne d'épines du Christ, ainsi qu'un bout de bois et un clou de la croix du Christ. Excusez du peu. Plusieurs équipes partent à la recherche de ces trésors. Et les deux camions bras élévateurs, arrivés des Yvelines, se concentrent, eux, sur les deux tours pour éviter que le feu ne se propage au beffroi. Car le vent d'Est joue contre les pompiers. Et si les beffrois prennent feu, les cloches, qui pèsent plusieurs tonnes, pourraient tomber à terre et le choc pourrait entraîner l'effondrement des tours, puis de la cathédrale, un vrai cauchemar. À ce moment précis de la soirée, les pompiers ne sont plus sur les terrasses de la cathédrale pour combattre le feu. Non, face à la peur de l'effondrement du bâtiment, leur état-major joue la sécurité. Le général Gallet explique le danger qui se profile.
On n'est pas sûr de pouvoir enrayer la propagation au beffroi nord. Si celui-ci s'effondre, je vous laisse imaginer l'importance des dégâts.
Au sol, des pompiers luttent pour éteindre tous les départs de feu au sein même de la cathédrale. D'autres équipes ont la mission d'aller à la recherche des reliques et des œuvres d'art à sauvegarder. Au bout de quelques dizaines de minutes, un pompier tombe nez à nez avec une vitrine dans la sacristie. Alors il n'hésite pas, il brise la vitre, prend délicatement la couronne d'épines et ressort, soulagé. Hélas, c'est un coup pour rien. Car cette couronne n'est pas la vraie. Non, c'est celle qu'on expose aux touristes et aux potentiels voleurs. L'autre est bien gardée, dans un coffre-fort. Dans l'urgence, une équipe retourne dans la cathédrale à la recherche des reliques avec le régisseur général de Notre-Dame, qui connaît, lui, le code du coffre. Mais la situation est périlleuse. Du plomb en fusion et les brandons tombent de la toiture. Il faut faire vite. Les alarmes du trésor sont assourdissantes. Le régisseur récupère les clés dans la sacristie et s'enfonce avec les pompiers dans la nef. Arrivé dans la chapelle, le régisseur met la clé dans la première serrure et compose le chiffre du code, tout simple, 0. Puis il se dépêche de mettre la clé dans sa deuxième serrure, et là c'est le trou de mémoire. À 20h36, il tente de joindre alors les sacristains, qui eux aussi ont les codes, mais pas de réseau, donc pas de réponse. Les pompiers s'impatientent, ils ne veulent pas risquer des vies pour une couronne d'épines, fût-elle celle du Christ. À 20h41, le sacristain général lui envoie le code. Le régisseur se précipite pour ouvrir les coffres et sauver le trésor, la couronne, le morceau de croix et le clou. Mission accomplie. Le général Gallet s'empresse d'annoncer la première bonne nouvelle de la soirée à Notre-Dame de Paris. L'autre Notre-Dame de Paris, Anne Hidalgo, et à Patrick Chauvet, le recteur archiprêtre de Notre-Dame, la vraie. C'est lui qui revient sur ce mot dans le documentaire intitulé « Le soir de l'incendie de Notre-Dame de Paris ».
C'est vrai que ça me soulage. Vous savez, la couronne d'épines, c'est une des plus belles reliques de l'Occident. Et là, j'ai vu comme un signe d'espérance.
Ensuite, les pompiers s'activent pour sauver le plus d'œuvres possible dans la cathédrale. Puis elles sont transportées à l'hôtel de ville de Paris, escortées par la police. En haut de Notre-Dame, pendant ce temps, le combat continue sur la terrasse située entre les deux tours. Une équipe est remontée pour stopper la propagation du feu dans les beffrois. Malgré 3 points d'attaque sur le brasier, les pompiers ne parviennent pas à stopper l'incendie. Pire encore, l'un d'eux, chargé de dessiner les plans opérationnels pour guider les actions, repère un départ de feu dans le beffroi nord. L'information est confirmée par les drones qui survolent la cathédrale. Autrement dit, le scénario catastrophe se profile. Les généraux Gontier et Gallet ne prennent aucun risque. Ils décident d'évacuer une nouvelle fois Notre-Dame. Désormais, un dilemme se présente. Abandonner la cathédrale et risquer sa destruction complète, ou envoyer un commando pour combattre le feu au plus proche des flammes, dans le beffroi nord. Car les camions bras élévateurs ne parviennent pas à atteindre le brasier qui a pris dans la tour nord. Après des minutes de réflexion, décision est prise. On envoie des hommes pour une mission éclair dans la tour nord. Le général Gallet annonce la manœuvre et les risques encourus au président de la République qui est sur place.
L'action des pompiers vise à préserver à tout prix le beffroi gauche, c'est en cours, et puis à contenir le risque d'effondrement. Ça peut être encore tenable.
Vos craintes sont là.
C'est là, voilà, ici et là. Et là, le beffroi, la tour gauche.
Et là, le risque, c'est un effondrement.
Oui. Que là, si là, ça s'effondre, ça va affaiblir. Et là, c'est avec la chaleur, celle-ci peut tomber une demi-heure après.
Sur le parvis, les pompiers et les autorités voient le commando de la dernière chance grimper dans la cathédrale. Il fait nuit et les lampes frontales des pompiers sont visibles sur la façade comme des lucioles. Au même moment, pour combattre le feu à l'intérieur de la nef où du plomb en fusion tombe de la voûte, un robot est utilisé pour envoyer de l'eau en toute sécurité. Arrivé sur la terrasse entre les beffrois, le commando de pompiers fracasse la porte à coups de masse. Il découvre des flammes de plusieurs mètres de haut. Le sol est en bois. Trop risqué de rentrer à l'intérieur, il attaque donc le feu avec une lance de l'extérieur. Mais le procédé n'est pas efficace. Le lieutenant Alexis informe l'état-major. Il faut entrer dans le beffroi. C'est risqué, oui, mais c'est la seule solution. Les généraux approuvent. Le pompier pénètre alors prudemment dans la tour. Un pas, deux pas. Le sol tient bon. Là, il aperçoit un escalier menant au palier supérieur. Il décide d'y grimper. La suite, c'est lui-même qui le raconte dans le documentaire « Le soir de l'incendie de Notre-Dame de Paris ».
Et je m'aperçois qu'effectivement, il y a un autre étage et qu'à cet étage-là, il y a d'énormes cloches. et les poutres qui les soutiennent sont en train d'être rongées par les flammes. Et à ce moment-là, je sens que la terre se dérobe en dessous de moi et en réalité, c'est l'escalier qui craque. Et je passe à travers complètement. Et je m'arrête finalement au niveau de la taille, retenu uniquement par ma bouteille d'air, donc mon appareil respiratoire isolant. Je regarde à gauche, à droite, je vois pas mes hommes. Et donc du coup, j'essaye de me dépatouiller. Finalement, en m'appuyant légèrement sur mes mains et en me tractant un petit peu, j'arrive à me dépatouiller et à pouvoir reculer.
Parvenus à destination, ils font face aux énormes cloches. Certaines s'élèvent jusqu'à 4 mètres de diamètre. Le problème, c'est que les poutres sur lesquelles elles reposent sont en train de brûler. Alors, c'est une nouvelle course contre la montre qui s'engage pour éteindre les différents foyers. Tous les pompiers se relaient à l'avance et au bout de quelques minutes, ils parviennent à éteindre les flammes. Mission accomplie. De retour sur la terrasse, entre les deux tours, les pompiers entendent les chants des fidèles massés près de la Seine. Et quelle scène ! 20 minutes plus tard, le brasier de la toiture se calme. Oui, les flammes diminuent et l'espoir revient. Notre-Dame est debout. Le général Gallet est fier d'annoncer aux autorités et à Monseigneur Chauvet, ça y est, c'est gagné. Plus tard dans la soirée, Emmanuel Macron demande au général Gallet d'entrer sur le pas de Notre-Dame. La cathédrale est ravagée, pleine d'eau et de gravats, c'est un désastre. Le président, qui devait s'adresser le soir même aux Français sur la crise des Gilets jaunes, prend alors la parole devant les caméras. L'actualité bouleverse ses plans. Tous les mots du président sont pour les pompiers et la cathédrale.
Durant ces heures, grâce à leur engagement, à l'engagement de l'ensemble des services de l'État, de la mairie de Paris, des personnels de Notre-Dame, le pire a été évité, même si la bataille n'est pas encore totalement gagnée. Les prochaines heures seront difficiles. Mais grâce à leur courage, la façade et les deux tours principales ne se sont pas effondrées.
La tragédie est immense, mais il n'y a eu ni mort, ni blessés graves. La cathédrale a tenu, mais elle est éventrée. La flèche et la toiture sont anéanties sur ce point, la messe est dite. Après un sauvetage de plusieurs heures, les 400 pompiers repartent de l'île de la Cité sous les applaudissements. Et l'heure n'est absolument pas à la polémique. Le lendemain, Emmanuel Macron annonce que Notre-Dame sera reconstruite d'ici 2024. Des centaines de millions d'euros de dons affluent alors de toute la planète. Mais reconstruire en 5 ans, peu de personnes y croient. Et après cette nuit d'unité, les polémiques s'enchaînent. Pourquoi les pompiers sont-ils arrivés si tard? Le système incendie était-il défaillant? Faut-il reconstruire la cathédrale à l'identique? Les questions sont nombreuses et, bien sûr, tout le monde a un avis.
Paris, de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris. Il y a un clochard qu'en a plein le dos, porté Notre-Dame sur son dos. Il se prend pour Quasimodo, regardant l'air, la vie qui grouille. Au lieu de faire des ronds dans l'eau, tu peux pas vivre comme une grenouille, moitié sur terre, moitié sur l'eau. Moi je pourrais faire rester là-haut, dans le jardin de Notre-Dame, où l'on se fait de bons amis. Il y a qu'à se promener chaque matin, un peu de maïs au creux des mains. Les pigeons, moi je les aime bien. Les péniches se fichent des pigeons de la cité. Goélette, mouette, elles n'ont que ça dans l'idée. Oui, mais autour de Notre-Dame, Il y a des voyages à bon marché et ces petits coins où le bonheur empêche les maisons de pousser. On l'appelle le marché aux fleurs, Henri IV, verdâtre, aime sous son verdegris la vieille flèche qui lèche le plafond gris de Paris. Et toi sous le pont de Notre-Dame, regarde en l'air, tu comprendras que si tout le monde faisait comme toi, dans ton pinard, il y aurait de la pluie. Même les ponts, ça se construit, car pour aller de Notre-Dame jusqu'à Paris, il a bien fallu se mettre au boulot et porter des pierres sur son dos pour passer par-dessus l'eau. Voilà pourquoi Paris s'enroule, s'enroule comme un escargot. Pourquoi la terre s'est mise en boule autour des cloches du parvis de Notre-Dame de Paris.
Vous écoutez Affaires Sensibles aujourd'hui, l'incendie de Notre-Dame de Paris, comme le chantait Edith Piaf. Événement dont nous allons parler avec notre invité, Laurent Valdiguier. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes grand reporter, ancien rédacteur en chef au Journal du Dimanche et à Paris Match, et auteur de l'enquête intitulée Notre-Dame, le brasier des vanités, livre publié l'an dernier chez Impact Éditions. Alors d'abord, le titre, le brasier, d'accord, on comprend? Des vanités. Qui sont ces vanités?
Les vanités, c'est d'avoir imaginé un système incendie, parce que Notre-Dame avait vécu pendant 850 ans sans système incendie. Et sans brûler, puisque c'était son originalité. Dans toutes les cathédrales, elles n'avaient jamais brûlé. Pourtant, quand elles sont construites au Moyen-Âge, ces cathédrales, elles sont quasiment faites pour brûler.
Oui, il y a beaucoup de bois partout.
Il y a du bois partout. D'ailleurs, c'est cet architecte du Moyen-Âge qui va en partie la sauver ce soir-là. Donc la vanité, c'est au début des années 2000, tout d'un coup, d'avoir décidé d'installer un système incendie qui, ce soir-là, on le voit, vous l'avez très bien raconté, n'a pas du tout fait son office, puisque la première goutte d'eau des pompiers arrive à peu près une heure après l'alerte. Et quand les pompiers arrivent, ils le disent tous, quand ils sont dans la toiture, le dragon, comme ils l'appellent, est déjà hors de contrôle. En réalité, les pompiers ne peuvent pas, une seconde, sauver la charpente. La charpente, elle est perdue. C'est en deuxième partie de soirée, justement, qu'ils vont, après l'avoir évacuée, après avoir évacué la cathédrale parce qu'ils ont cru qu'elle allait s'effondrer. Ils l'ont cru à tort, vraisemblablement. Les pompiers ont dû remonter pour partir à la guerre du Beffroi Nord.
Ce qu'on a raconté, voilà.
Et cette guerre du Beffroi Nord, ils la gagnent, les pompiers. Ils la gagnent. Mais ils ne gagnent que la seconde mi-temps de la soirée. La première a été catastrophique. Catastrophique pour la cathédrale, puisque cette charpente du Moyen-Âge, rendez-vous compte, c'est un peu comme si on avait brûlé la Joconde.
Oui, bien sûr.
Cette charpente du Moyen-Âge...
Avec des chaînes du Moyen-Âge.
Qui faisait de Notre-Dame un point fixe au milieu de Paris, et puis finalement, au milieu de toute l'histoire de France, puisque Notre-Dame, elle traverse ce millénaire intact. Et on ne l'aura plus jamais, elle ne sera plus jamais comme avant.
Alors, vous écrivez en sous-titre, mais en trois phrases, alors c'est une plume assez rare, mais tout est dit. Les meilleurs ouvriers de France, les meilleurs architectes auraient dû veiller sur elle. Et pourtant, cette enquête, donc votre livre, révèle une somme de bêtises ordinaires qui ont eu raison en quelques heures de 1000 ans d'histoire. Un incendie du Moyen-Âge. Bien, alors on l'a raconté ça. Quelle est pour vous vraiment la plus grosse faute, ou de conception, ou de surveillance, parmi tout ce qu'on a vu?
La plus grosse faute, c'est d'avoir imaginé au début des années 2000 un système incendie qui était conçu pour un feu à propagation lente.
Eh oui. Il
y a une erreur absolue qui a l'air de commander. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé. Hein. C'est aussi ce qu'il faut dire. L'enquête judiciaire est en cours.
On ne sait pas.
Mais ce système incendie, il est conçu. Son point de départ, c'est de penser qu'il faut surveiller par des petits capteurs. Il y en a 170. enfin il y en avait 170, qu'il faut repérer le moindre dégagement de fumée, et que ces bois anciens, ces vieux chênes, allaient brûler, s'ils devaient brûler suffisamment lentement, pour permettre à des pompiers, voire à un vigile, d'intervenir avec un petit instincteur, et d'arranger tout ça. Et en fait, ça c'est un défaut de conception absolue. À ce stade, hein, puisqu'on ne sait toujours pas ce qui a mis le feu. Mais c'est un défaut apparemment de conception absolue, puisqu'au contraire, quand le système de détection s'est mis en route, alors après il y a toute une cascade de diables qui vont se mêler, il y a tous les diablotins sont au-dessus de Notre-Dame cette nuit-là, y compris le vent, qui est dans le mauvais sens. Mais et puis ces voyants, c'est, vous l'avez raconté tout ça, c'est l'agent qui était pas en charge, qui avait fait deux services, qui était là que depuis trois jours, qui comprend pas le numéro, qui donne
l'autre qui perd le code,
son chef qui est sur messagerie, qui le rappelle, le gendarme à la retraite qui a son talkie-walkie, qui va au-dessus de la sacristie et pas au-dessus du nef. Il y a une somme de diablerie ce soir-là.
Ouais, c'est souvent comme ça dans les catastrophes d'ailleurs.
C'est souvent comme ça.
C'est terrible.
C'est terrible. La pire étant le sens du vent, tout simplement. Puisque le vent pousse les flammes pendant des heures, pendant cette heure tragique, vers la tour nord, celle où la charpente menace de brûler. Mais toujours est-il que cette alarme, enfin ce dispositif d'incendie, était absolument inefficace pour ce qui s'est passé. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il n'a servi à rien.
Alors, je crois, vous me dites si c'est faux, qu'il n'y a non seulement pas de pompiers qui travaillent à Notre-Dame, en résidence, alors qu'il y a des pompiers dans tous les bâtiments avec beaucoup de monde. Ici, à Radio France, il y a je ne sais pas combien de pompiers, on les voit tous les jours. Bref. Et il n'y a pas de vidéosurveillance non plus. Voilà non plus, mais ça c'est bien.
Alors,
il n'y a pas de vidéosurveillance.
C'est ce qui fait partie de la somme de petites diableries de cette nuit-là. Généralement des décisions, parce que des gens responsables de la sécurité, tout ça, il y en a plein. Il y a les affaires culturelles de la DRAC, le ministère,
l'architecte
en chef. Ils sont pas in situ. D'ailleurs, on a appris après Notre-Dame, après la nuit de Notre-Dame, que des pompiers de Paris se mettaient à faire des rondes dans la toiture du Louvre le soir. Parce que là, il n'y a pas de ronde à Notre-Dame. Il n'y a pas de... Les ouvriers, on sait que ce chantier, on sait que la plupart des incendies arrivent, surviennent dans ces vieux bâtiments dans les moments de chantier. Parce que les moments de chantier, ces vieux bâtiments, ils sont dérangés. On fait voler la poussière, on remue un peu les vieux câbles, on remue un peu tout ça. Donc c'est des zones de danger. Et donc il n'y avait tout simplement pas de caméra sur le chantier là-haut. Il n'y avait pas non plus de caméra, alors que l'évêché s'en était plaint à plusieurs reprises. Vous savez, beaucoup de monte en l'air venaient faire une visite
en
escaladant et en se prenant en photo, en faisant des vidéos. Donc il n'y avait pas non plus
c'était
de caméra
tentant,
pour ça,
oui.
C'était tentant. Et puis surtout, les ouvriers, les 12 ouvriers de ce soir-là quittent le chantier à 17h50. C'est un peu moins d'une demi-heure avant l'alarme incendie. Il n'y a pas non plus de ronde ou de veille à ce moment-là. Les 3 employés de la cathédrale de l'évêché qui sont là, ils surveillent le public et ils surveillent la messe qui vient de commencer.
Ouais.
Donc en fait, personne n'est monté là-haut. Et en réalité,
ils surveillent le danger là où il est pas.
C'est toujours pareil avec les feux. Il suffit de, dans les premières minutes, peut l'éteindre avec un verre d'eau.
Qui gère la cathédrale, j'imagine l'archevêché, mais qui prend les décisions? C'est la mairie de Paris ou c'est l'État? C'est toujours compliqué, même avec la loi PLM à Paris, c'est un peu compliqué.
Alors c'est l'État, et ils sont deux en fait. Il y a l'architecte en chef des monuments historiques, qui est Philippe Villeneuve, qui est toujours en poste, qui surveillait qui avait en charge le chantier et qui opère la reconstruction aujourd'hui. Et puis c'est la DRAC, la direction des affaires culturelles, au ministère de la Culture, qui est en charge de la sécurité. Donc il y a déjà un enchevêtrement, c'est d'ailleurs pour ça que ce soir-là, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait dans l'émotion? On a encore écouté sa voix, on entend encore à distance l'émotion du président devant cette cathédrale qui flambe. Ce soir-là, il va nommer pour la reconstruction un général.
Ah oui, et on en parle, juste après avoir écouté Hubert Félix Stéphane qui nous chante cette circonstance, la flèche.
Suis la flèche. Dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de voix. Suis la flèche. Dis-moi si t'aperçois les chasseurs d'illusions sur les toits. Dans le ciel, comme un ouragan, l'air prend
couleur d'un voile sanglant. En sommeil, depuis 10 000 ans, on entend gronder d'anciens volcans. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Dis-moi, suis la flèche, dis-moi si tu sens la cruelle odeur des innocents. Suis la flèche, dis-moi si t'entends les sœurs fatales et leur boniment. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. Suis la flèche, dis-moi ce que tu vois. Je crois que les gardiens changent de croix. Suis la flèche, dis-moi si t'aperçois là-bas au loin les jongleurs sans loi. Dis-moi comment sortir des écrans, s'enfuir du présent, changer d'océan. Dis-moi comment écrire en chantant la fin du roman, heureux dans l'instant. La fin du roman.
Voilà, sur la flèche de notre interview est marqué enquête. Donc on va aller se diriger vers l'enquête, avec Laurent Valdiguier. Alors, que sait-on des théories pour expliquer l'incendie? Quelles sont les hypothèses retenues, celles qu'on ne retient plus, qu'est-ce qu'on en sait?
Alors, le procureur de Paris qui lance une enquête, évidemment, le soir même, confiée à la brigade criminelle, hein, c'est les meilleurs policiers de France, exclut assez vite l'hypothèse criminelle. D'ailleurs, son ouverture d'information exclut l'incendie volontaire. C'est un accident, mais pour l'instant, même si deux juges d'instruction enquêtent depuis 2 ans, rien ne l'explique. Alors, on a toujours sur la table les premières hypothèses, hein, c'est-à-dire éventuellement un mégot d'ouvrier qui aurait...
Donc l'accident, quoi, la thèse de l'accident.
L'accident. Ouais. Il y a aussi l'hypothèse des fils électriques.
L'arc électrique.
Ouais. Parce que c'est vrai que une des vieilles règles n'avait pas été respectée ce soir-là dans Notre-Dame, à savoir qu'il y avait des fils électriques qui couraient dans la charpente. Il y a plein d'autres cathédrales où évidemment c'est absolument prohibé l'électricité dans ces charpentes en bois. Mais alors là, il y a des fils électriques depuis 2008, puisque l'évêché avait demandé à la direction des affaires culturelles l'installation de premières cloches au-dessus du chœur. Finalement, il n'y avait pas eu de réponse, mais pas de réponse valait bonne réponse. Donc, il y a eu des cloches au-dessus du chœur. Et puis, suite à la réfection des cloches du beffroi, l'évêché a demandé est-ce que Notre-Dame ne reste pas muette et que les 3 cloches de la flèche de Viollet-le-Duc puissent être électrifiées pour à nouveau sonner.
D'accord.
Si c'était le cas, d'ailleurs, ces fameuses cloches de la flèche, elles ont sonné pour la dernière fois, 18h04, un quart d'heure avant le feu.
Et la destruction du système électrique.
Donc, est-ce que ce système électrique a pu provoquer un point chaud? Ce qui est quand même mystérieux, c'est que les ouvriers qui sont descendus à 17h50, n'aient jamais rien senti.
Ah oui.
Donc si ce feu a couvé, alors une autre hypothèse c'est la possibilité d'un point chaud dont les ouvriers n'auraient pas parlé.
À quoi?
Ou d'un point chaud, vous savez, un point chaud c'est strictement interdit sur ces vieux bois, c'est un point de chaleur, parce que la chaleur par ça prend beaucoup de temps, mais la chaleur sur ces vieux bois peut finir par provoquer son embrasement.
Une matière incandescente.
Voilà. Ou alors des points chauds, ça peut être des découpes de métal qui vont provoquer des étincelles, une petite étincelle peut couver très longtemps. Certains pensent que quand les statues 3 semaines avant avait été démonté, il y a la possibilité de points chauds qui aient pu couver très longtemps. il y a des expertises énormes en cours dont on ne connaît pas encore le résultat.
Alors, on va parler de la reconstruction. On va écouter l'avis d'Arnaud Timbert, docteur en histoire de l'art, qui explique pourquoi, selon lui, cet incendie, c'est aussi l'occasion de lancer des nouveaux projets architecturaux pour la cathédrale.
Notre-Dame n'est pas la première à voir un incendie ravager son toit et précipiter sa flèche. Ces images de Rouen en 1822 nous paraissent étrangement familières. Selon lui, il faut réinventer Notre-Dame.
Ce n'est pas un monument historique. C'est un monument dans l'histoire. C'est un monument dynamique, qui n'est pas une cathédrale ni du Moyen-Âge, ni de la période moderne, ni du XXe. C'est toutes ces cathédrales-là. C'est tous les hommes qui ont laissé leurs traces, leurs marques, en tant qu'artisans, en tant qu'artistes, donc autant faire, créer une flèche totalement nouvelle, avec un concours international, avec des matériaux contemporains, puisqu'il ne s'agit plus d'un chantier de restauration, il s'agit maintenant d'un chantier de création.
Ouais, enfin le débat est clos, hein, ça va se faire à l'identique, mais on aurait pu faire ça.
On aurait pu imaginer, comme Viollet-le-Duc, qu'il avait beaucoup bouleversé, puisque cette flèche, Viollet-le-Duc l'a inventée. Et pour l'inventer, d'ailleurs, il avait dû fermer pour renforcer les quatre gros piliers. Autour du cœur d'une cathédrale, il y a quatre énormes piliers qui contrôlent à eux seuls toute la cathédrale. Chaque pilier contrôle un quart de la cathédrale. Donc Viollet-le-Duc, pour construire sa flèche, qui était beaucoup plus haute, beaucoup plus lourde que la flèche initiale, avait dû fermer autour de ses piliers des vitraux, ce qui avait rendu Notre-Dame un peu plus opaque encore. Mais au fond, parmi les architectes, plusieurs voulaient que l'on lance un projet. Et puis finalement, Emmanuel Macron a mis fin à la tentative de faire une flèche de verre au-dessus de Notre-Dame de Paris.
Ouais. Alors, Emmanuel Macron, puisqu'on en parle, a promis une réouverture, je sais pas si c'est dépassé ça, en 2024, c'est toujours le délai prévu.
Alors il a confié tout ça à un général, le général Georges Lain, qui promet un Tédéum le 15 avril 2024 dans sa cathédrale. Bon. Alors ce qu'il y a, c'est que là, les travaux de consolidation sont terminés, mais les appels d'offres ne sont pas encore lancés, donc il faut encore lancer des appels d'offres pour que ce soit ce chantier qui puisse se mettre en route.
À suivre. Merci infiniment, Laurent Valdiguier. Je rappelle le titre de votre livre, dont je conseille la lecture à nos auditeurs. Notre-Dame, le brasier des vanités, chez Impact Édition. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'incendie de Notre-Dame de Paris, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Sybille Clamins. Mon cher Antoine de Caunes, pop, 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 c'est vous, et c'est tout bientôt. Bonjour.
Oui, bonjour Fabrice. Fabrice, je n'ai eu que des échos, mais alors très très favorables. Hein. La suite de la diffusion hier soir sur France 2 d'Affaires Sensibles, version télé.
Je vous remercie de le dire.
Et moi je vous en félicite, vous savez que plus il y a de drouelles, et mieux on se porte.
Oh, bah dites donc, quelle belle philosophie.
Dit comme je le pense. Et bien aujourd'hui nous recevons Rover pour parler d'excellente musique.
Voir ce qu'il y a sous le moteur.
Ouais.
Oh, ça je voulais piquer, je suis désolé. Ah, je voulais piquer.
Je l'apprends.
À tout de suite.